RMC, face aux grandes gueules.
C'est le professeur Adnet qui est avec nous, le professeur Frédéric Adnet, chef du SAMU de Paris. Bonjour professeur.
Bonjour.
La canicule est terminée, mais la crise sanitaire continue ?
Oui, dans toute canicule, il est classique d'avoir un effet, ce qu'on appelle un effet rebond. Hein. Les organismes sont fatigués, les différents organes vitaux comme le rein, le foie, le poumon ont encaissé des chaleurs extrêmes. Et on assiste maintenant non plus aux coups de chaleur qui sont des pathologies pendant la canicule, mais malheureusement à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des décompensations qui peuvent être des maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, mais aussi sur des organes un petit peu fragilisés, l'apparition de d'insuffisance de système, hein, respiratoire, rénal ou cardiaque.
Vous êtes beaucoup intervenu ce week-end avec le SAMU ou pas ? Enfin, sur les 4-5 derniers jours.
Bah écoutez, le pic est dépassé. Hein. On a eu réellement un pic d'activité il y a 3 jours en pleine canicule. Et actuellement, on est dans un plateau qui est encore très élevé, qu'on arrive un peu à maîtriser avec nos renforts à la fois de personnel et de moyens. Et on est, si vous voulez, sur un plateau descendant actuellement, avec une descente progressive du nombre d'interventions, du nombre d'appels et du nombre de patients que l'on prend en charge.
Quel est le type de patient ? Il y a un profil type ?
Oui, il y a un profil type sur les épisodes de canicule. Alors malheureusement, à cause de mon âge, j'ai vécu la fameuse canicule de 2003. Donc j'ai, si vous voulez, des repères. Si vous voulez, dans l'activité de SAMU qui vise à prendre en charge les urgences vitales, il y a deux types, hein, d'urgences vitales pendant la canicule. Il y a la plus gravissime, hein, ce qu'on appelle les coups de chaleur. C'est-à-dire que l'organisme rentre en hyperthermie et on n'arrive pas à arrêter cette hyperthermie. La température grimpe jusqu'à des valeurs incroyables, hein, qui peuvent aller jusqu'à 43 degrés.
Température du corps ?
Du corps, oui.
43 degrés.
Température centrale, on ne peut pas vivre à 44 degrés. Hein. Donc il y a une limite supérieure. Donc c'est entre 43 et 44.
Et qu'est-ce que vous faites là, dans ce cas-là ?
Alors je vais venir. Ouais. Et la deuxième type de pathologie, c'est les malaises, c'est les déshydratations. Et là, ce qu'on a, on a un changement de type de patient, qui est ce que je vous disais au début, des décompensations de maladies chroniques. Alors, la canicule 2003 nous a appris beaucoup de choses, et c'est probablement pour ça aussi, c'est une des causes sur lesquelles on va avoir une mortalité probablement plus faible qu'en 2003, alors que la chaleur était à peu près la même. C'est qu'on a appris à prendre en charge très précocement ces patients. Donc les recommandations internationales, les études nous montrent que il faut refroidir le patient le plus rapidement possible et le plus tôt possible. Donc refroidissement rapide et le plus précoce possible.
C'est-à-dire qu'on plonge le corps dans de l'eau froide.
Et la meilleure technique d'évacuation de la chaleur du corps, c'est par conduire. On met un corps froid au contact avec le corps. Et ce corps froid, c'est une baignoire remplie d'eau à une température autour de 3 degrés qu'on maintient avec des glaçons. Donc on amène des baignoires au domicile du patient.
Ah bon ?
Sur la voie publique, oui, tout à fait. Mmh. Là où ils sont pas bien.
Et vous plongez le corps donc pendant combien de temps ?
On plonge le corps. Voilà, c'est une idée.
Il y a pas un risque de choc thermique ?
Eh ben justement, c'est ce qu'on pouvait craindre, mais les études montrent que plus rapidement on fait diminuer la température, donc on crée ce choc thermique, hein, meilleur est le pronostic. Et on voit réellement les patients s'améliorer sous nos yeux.
Alors,
dans les baignoires.
Je comprends rien. Parce qu'on nous dit que quand on a très chaud, faut pas se baigner parce qu'on risque
qu'on
hydrocution. Et il a raison. Dieu sait qu'on nous a emmerdé quand on était gamin.
Mets-toi de l'eau derrière la nuque.
Mais et là, vous nous dites, allez, bim, on plonge le corps.
Alors deux grandes différences avec l'hydrocution, c'est que vous êtes pas en hyperthermie quand vous plongez la piscine.
Bien sûr.
La deuxième grande différence, c'est que je crois que dans une baignoire, on a pied. Hein, alors.
Voilà. C'est pas pour
on va dans une piscine, on a papier, on peut couler. Et puis il y a un entourage médical. Non, il faut réellement plonger le corps dans de l'eau froide. La température s'évacue très rapidement, très rapidement. Le patient est monitoré, c'est-à-dire qu'on regarde sa température constamment avec des appareils spéciaux. On regarde sa tension artérielle, on regarde sa conscience. Évidemment, il ne faut pas qu'il s'aggrave, mais en général, et c'est réel, un vrai progrès en médecine. On les voit s'améliorer dans la baignoire.
Ça veut dire qu'on a donc tiré les leçons de 2003 dans la façon d'intervenir. Il y aura donc moins de morts. Pour l'instant, on dit plus de 1000 morts. Mais c'est un chiffre encore provisoire. Le bilan sera moins terrible.
Écoutez, j'ai pas les chiffres, les derniers chiffres, et vous savez que la surmortalité s'analyse toujours à distance. Hein, il faut consolider les chiffres de mortalité.
La fin du mois.
Et c'est les statisticiens, les épidémiologistes qui sont mieux outillés que moi pour vous faire un vrai bilan. Mais la sensation que j'ai pour avoir vécu les deux phénomènes 2003 et 2026, c'est qu'il y aura probablement moins de morts. Alors pourquoi? Ben moi je vois bien au SAMU en 2003, on avait une mortalité effroyable, rappelez-vous, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Là, il y en a, mais beaucoup moins. C'est l'impression que j'ai quand j'interviens et que je fais intervenir mes équipes, beaucoup moins dans ces institutions. La deuxième chose, c'est que en 2003, on était complètement surpris. Moi, j'ai découvert le coup de chaleur en 2003. Hein. Là, on sait parfaitement ce que c'est. Et surtout, la population est avertie. Il y a eu des messages de prévention. Mmh. Alors qu'en 2003, on n'avait pas eu le temps de faire des messages de prévention. Donc tout ça... La meilleure prise en charge des institutions de personnes âgées où il y a des pièces climatisées et des messages de prévention, je pense qu'on rend un impact majeur sur la diminution de, malheureusement, de cette surmortalité.
Alors, Michel Gégé, Emmanuel Devilliers, Charles Consigny, Joël Dagosséry.
Joël?
Oui, professeur, j'ai deux questions. Justement, pour parler de la population qui est avertie, est-ce qu'on assiste encore à des actes irresponsables en ces périodes de calme, beaucoup moins qu'en 2003? Et ma deuxième question, c'est sur les moyens d'intervention. J'ai regardé un peu ce qui se fait en Arizona, Texas, etc. Et les États-Unis, lorsqu'il y a vraiment une grosse canicule, ils font même débarquer, ils ont une opération un peu militaire, enfin un comportement un peu militaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent, sur des grands parkings, etc., installer des sortes de camions réfrigérés. Enfin, ils font venir, en tout cas, les moyens d'intervention, enfin médicaux, un peu sur place. Enfin, ils les rapprochent de la population. Est-ce que ce sont des choses que nous, on a déjà fait ou qu'on peut faire?
Alors, sur les comportements, on va dire inadaptés, oui, malheureusement, oui. On est encore intervenu sur un jogger qui fait son jogging en plein à 2 heures de l'après-midi et qui a fait un coup de chaleur.
Et vous le faites payer un peu?
Non, on fait pas payer les malades.
Je rebondis là-dessus. C'est comme les types à qui on dit n'allez pas faire du hors-piste, il y a un risque d'avalanche et qu'on est obligé d'aller chercher au risque de la vie des secouristes. On leur fait payer aujourd'hui l'intervention. Moi, ça me choquerait pas, pardon, hein, sachant qu'en plus on manque d'argent, que le type qui a fait du jogging à 15 heures, ça fait une semaine qu'on ne dit pas en faire, qu'il paye quelque chose. Enfin, je sais pas, ce que vous en pensez, les grandes gueules, mais
non.
Ah bah voilà, bon, très bien. Bah, écoutez,
on punit pas les malades. On punit pas les malades. On pourrait étendre ça sur les fumeurs, etc. Donc,
Le fumeur, on taxe sa consommation, donc c'est une façon de le faire payer.
Non, en France, on a la chance d'avoir une sécurité sociale et d'avoir des soins gratuits.
Oui, mais justement, est-ce que ça déresponsabilise
avec,
pas
avec le
on dit, de toute façon, je serai soigné.
Dans les comportements déviants, notre job et notre éthique.
Vous êtes là pour soigner.
Le problème est un problème sociétal et là, c'est pas à nous de trancher. Après les centres faire des regroupements de patients, et c'est une très bonne idée, dans des zones climatisées, ça, c'est dans les conseils, hein. On conseille aux personnes d'aller dans la salle de cinéma, d'aller dans une grande surface, d'aller dans les endroits où il y a des endroits climatisés. Et d'ailleurs, dans le plan canicule, hein, de niveau 3, les mairies sont censées faire un recensement des zones climatisées et d'adresser ça aux EHPAD et aux maisons de retraite pour pouvoir amener ces patients vers ces zones justement climatisées.
Non. Vas-y, Emmanuel.
Le professeur Adnet, les Français vous connaissent bien. Vous avez un peu une gueule d'acteur, un peu Philippe Léotard avec un zeste de Jean Gabin. On se souvient que c'est vous qui avez accueilli le nouveau Premier ministre Michel Barnier. Dans sa première sortie, vous étiez là, déambulé dans un hangar. Tiens, regardez, monsieur le Premier ministre, on a une camionnette, là, voilà, c'est comme ça. Hein. Et les Français, encore une fois, vous apprécient dans votre sérieux et dans votre dignité, parce que vos fonctions sont éminemment graves. Ce dont on se rend compte, semble-t-il, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'un tout petit peu d'activité supplémentaire hospitalière fait qu'on ne peut pas la digérer. Il n'y a plus de place en prison, il n'y a plus de place dans les morgues. C'est pas le moment de passer l'arme à gauche.
Alors,
c'est pas le moment de tomber malade.
Alors, est-ce que bon,
les places dans les hôpitaux là.
Le système hospitalier a répondu avec ses plans de crise. Hein, et je vous apprends pas qu'on est en plan blanc. Plan blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un peu comme avec le Covid. Hein, on déprogramme les patients les moins urgents pour essayer de les faire venir à l'hôpital un peu plus tard, afin de pouvoir gérer le flux des patients entrant par les urgences qui vont nécessiter, ces patients très fragiles, qui ne sont pas en très bon état, qui vont nécessiter des hospitalisations assez longues. De plus, à la différence du Covid, où là, vraiment, on était vraiment au point de rupture, là, on a eu des renforts à la fois humains et matériels qui nous ont permis quand même de gérer. C'était une activité très intense, mais à aucun moment, je me suis senti, comme malheureusement, j'ai aussi vécu le Covid, comme avec le Covid, où je me suis dit, on risque de tout lâcher.
Donc l'hôpital n'a pas craqué.
On a pu avoir des moyens supplémentaires. Tout n'a pas été parfait, hein. Mais j'ai l'impression que cette crise, on a pu la gérer sans donner des pertes de chance aux patients.
Oui, mais docteur, moi j'ai entendu des témoignages avec des chambres, des patients qui avaient 35 degrés dans leur chambre. Je me dis, pardon, ce sont des malades. On les met en danger.
Alors, je vous parlais de la prise en charge des malades. Hein. Donc on a donné les soins appropriés, on a pris en charge les malades. Après, et ça vous avez complètement raison, et je pense que nos tutelles s'en sont aperçues, il y a un vrai problème de plan de climatisation des hôpitaux publics en France.
Vous êtes d'accord avec ça?
Il faut un plan clim national, et je crois que ça
commence. Pourquoi on l'a pas enclenché, alors que les responsables politiques ne cessent de nous dire, les canicules vont se répéter, il faut s'y habituer, ça va se banaliser. Donc il y a un double discours, et finalement, sur le terrain, il se passe rien.
Là, j'ai l'impression quand même que... cette canicule a secoué nos tutelles, puisque déjà on reçoit beaucoup de climatiseurs.
Ah, ça y est, vous avez commencé à recevoir.
À les recevoir en grand nombre. Et je pense qu'il y a une réunion interministérielle aujourd'hui.
C'est-à-dire, vous les recevez une fois que la vague de chaleur est passée.
Enfin, mais une autre qui va arriver.
Alors voilà, finalement, ça va sauver le corps nu, c'est une troisième vague arrive.
Donc j'ai quand même, je suis pas aux commandes, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'ils en ont pris conscience et qu'on va.
Donc il faut en France toujours des crises. Pour se rendre compte à chaque fois qu'il nous manque.
Ouais, je pense pas que ce soit spécifique à la France.
Non, mais mais on dit toujours gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire qu'on attend qu'on soit dans le dur pour se dire tiens.
Moi, je pense qu'il y a eu des mesures qui ont eu de l'effet après la canicule de 2003. Hein, ça a été les chambres climatisées obligatoires dans les institutions pour les personnes âgées. Ça a été les plans de prévention largement diffusés au niveau de la population française. Mmh. Et effectivement, un oublié, je dois le reconnaître, hein, un plan de climatisation massif des hôpitaux en France. Je crois que d'après les échos que j'ai, nos tutelles l'ont pris en compte et que la réunion de cet après-midi va probablement déclencher des crédits pour pouvoir acheter ces climatiseurs sans attendre une nouvelle canicule.
Charles Consigny.
Si vous connaissez un peu ce qui se pratique à l'étranger, est-ce que vous diriez que la France, sur le plan de la lutte contre la canicule, et de façon générale son système de santé, mais notamment sur ce sujet, est-ce que vous trouvez qu'on est très en retard, très sous-équipé? On a entendu beaucoup de gens qui ont dit « la France, c'est un pays du tiers-monde » et qui sont choqués de voir à quel point on est sous-équipé, notamment... parce qu'on met quand même beaucoup d'argent dans tous ces systèmes, ne serait-ce que les 36 milliards d'euros que rapporte la fameuse journée travaillée du lundi de Pentecôte. Est-ce que de par ce que vous savez du système américain, allemand, que sais-je, est-ce que vous trouvez qu'on est quand même un peu à la ramasse?
Alors, j'ai travaillé dans les systèmes anglo-saxons, hein, les systèmes qu'on connaît, États-Unis, Angleterre. J'ai pu passer du temps là-bas. D'un point de vue technologique, d'un point de vue équipement, d'un point de vue procédure et protocole, on est complètement en phase avec ce qui se fait de mieux aux États-Unis ou en Europe. Au niveau de l'accueil des patients, de nos services d'urgence. On est bien, on est vraiment dans la moyenne et on n'est pas du tout à la ramasse par rapport aux pays étrangers. Par contre, encore une fois, cette canicule nous a appris une chose, c'est qu'il nous manque, on a quelque chose qui nous manque réellement, c'est d'avoir loupé la climatisation massive des hôpitaux. Bon, ouais. Ça, maintenant, je crois que tout le monde le sait.
Il y a des nouveaux hôpitaux qui sont construits, qui sont pas complètement climatisés. Alors là,
c'est ce que je viens de vous dire.
C'est de l'argent quand même. Ça, c'est de l'argent.
On l'a loupé. Pourquoi? Parce que les médecins le demandaient. Moi, je me souviens, c'est un débat qui est vu. Pourquoi? Par idéologie politique. C'est pourquoi?
Il faut demander à notre.
Non, je sais bien. Mais enfin, quand vous faites.
Mais peut-être qu'on l'a pas demandé assez fort. Peut-être que vous savez, les crises, on les oublie très vite.
Ouais.
Et Il y a eu des très bonnes mesures faites après 2003, j'en suis témoin, et j'ai vu la différence avec ce qu'on fait actuellement. On a loupé la climatisation massive des hôpitaux, ça, je suis obligé de le reconnaître. Tout le monde,
mais il est pas trop tard.
Tout le monde le réclame, en particulier la direction de la PHP. Donc je pense que ça va percuter. Hein.
Oui, mais,
Joël.
Professeur, on s'est autoproclamé meilleur système de santé au monde, quasiment. Est-ce que c'est vrai réellement, puisque vous avez travaillé à l'étranger, donc est-ce que réellement nous sommes le meilleur système de santé au monde? Et si ce n'est pas vrai, alors qu'est-ce qui nous manque? Et quel est selon vous le meilleur système de santé? Parce que moi, je commence à ne plus y croire. Je fréquente les hôpitaux et des grands hôpitaux comme Georges Pompidou, qui est un hôpital européen, et où on attend 6 heures, 8 heures. Enfin, j'ai attendu aux urgences. On m'a dit, vous avez 8 heures d'attente alors que j'avais une occlusion intestinale. Donc, c'était pas comme si c'était pas urgent. Vous voyez? Donc, est-ce qu'on est réellement dans le meilleur système de santé au monde?
Vous allez au Canada ou en Angleterre, vous pouvez attendre 12 heures sans que ça choque personne. Ça dépend ce que vous définissez comme le meilleur système.
On a la meilleure médecine.
Alors, il y a le niveau système de médecine, mais moi, je mets dans mes critères de meilleur système de santé un système qui est éthique et qui donne, si vous voulez, le meilleur soin à la population, quel que soit son niveau social, son origine, etc. Et là-dessus, je pense qu'on est effectivement dans les meilleurs. Comme vous dites, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai bien vu l'inégalité face aux soins par rapport au niveau social, par rapport au fait qu'il y ait une assurance. On a un système quand même qui est gratuit.
Oui, mais est-ce que cette inégalité n'est pas en train de se mettre en place? Pardon, est-ce qu'il n'y a pas quand même un système à double vitesse? Quand on connaît un professeur de médecine, quand on est reçu plus rapidement, on aura un diagnostic plus vite. Quand on ne connaît pas, on est obligé de passer par un système qui est un peu engorgé.
C'est ce que je considère comme des dérives, mais ce n'est pas le système en lui.
Mais est-ce que ça ne se met pas en place?
C'est ce qui est en place par la majorité des systèmes de santé. Dans le nôtre, on peut le critiquer par piston, arriver à prendre un rendez-vous plus rapide. Mais si vous voulez, c'est une dérive par rapport à un système qui, dans ses racines, est un système foncièrement égalitaire. Quand je pars en SAMU, je procure les mêmes soins en coup de chaleur d'un SDF ou d'un propriétaire d'un appartement dans le 16e arrondissement, ils ont exactement le même niveau de soins. Et ça, on ne le retrouve pas ailleurs. Hein, vraiment, on ne le retrouve pas ailleurs. Et je l'ai vécu. Donc, au niveau technique, on est la médecine occidentale et on a les dernières recommandations. Et je fais de la recherche, on est vraiment dans les meilleurs soins. Au niveau de l'égalité par rapport aux soins, je pense qu'on est effectivement dans les meilleurs.
Merci, professeur Anet, d'être venu faire un bilan de la canicule. Le plan climat à l'hôpital, il manque, mais ça se met en place. Les climatiseurs sont en train d'arriver. Merci d'avoir été avec nous, professeur Anet.